France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la tuerie de l'école polytechnique de Montréal. Le 6 décembre 1989, un jeune homme de 25 ans, Marc Lépine, s'introduit dans une salle de cours armé d'une carabine semi-automatique. Il ordonne aux étudiants de se séparer en deux groupes, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Après avoir fait sortir les seconds, il déclare aux 9 étudiantes restées avec lui dans la classe « Vous êtes des femmes, vous allez devenir ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes. » Puis il tire, tuant 6 d'entre elles. Et ce n'est pas fini. Il poursuit son périple meurtrier à travers l'école, assassinant 14 femmes au total et faisant 14 blessés. Au bout d'une vingtaine de minutes, il se tire une balle dans la tête. Cette tuerie traumatise le Québec. Et il faudra des années pour prendre la mesure de l'événement qui s'est produit, une tuerie anti-féministe, le premier féminicide de masse revendiqué. Notre invitée aujourd'hui, Mélissa Blais, professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, autrice du livre intitulé « Je hais les féministes » le 6 décembre 1989 et ses suites, livre paru aux éditions Remue Ménage. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct, récit documentaire Jean Brossier, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Ce mercredi 6 décembre 1989, l'école polytechnique de Montréal est agitée par l'effervescence habituelle des fins de semestre. Les vacances de Noël approchent, et pour les étudiants, c'est la dernière ligne droite. À l'intérieur du campus, perché sur les hauteurs de la ville, certains assistent à leur dernier cours de l'année. D'autres s'activent pour rendre à temps leur travail de groupe et tous préparent assidûment les examens qui approchent. Sur les 6000 apprentis ingénieurs de poly, on compte alors environ 10% de femmes. Si on est très loin de la parité, le progrès est tout de même notable par rapport à la génération précédente. En 1960, en effet, il n'y avait que 10 étudiantes dans toute l'école. Ce 6 décembre, il neige abondamment. En fin d'après-midi, alors que le jour tombe, un jeune homme de 25 ans s'introduit dans le bâtiment principal. Il s'appelle Marc Lépine. Il n'est pas élève à Poly, même s'il en a rêvé. En 86, il a déposé un dossier de candidature jugé incomplet. Pour pouvoir s'inscrire, il lui fallait d'abord valider 2 cours fondamentaux, une étape qu'il n'a jamais franchie. Bien qu'étranger à l'école, Marc Lépine connaît les lieux sur le bout des doigts. Dans les mois qui précèdent, il est venu 9 fois en repérage, apprenant à s'orienter dans le vaste bâtiment de 5 étages. À 16h, l'intrus se poste dans le bureau des inscriptions. Il patiente 40 minutes, assis dans le passage, mais personne ne prête réellement attention à lui. Il faut dire qu'il n'a rien de remarquable, brun, de taille moyenne. Il tient un sac en plastique vert dans lequel il fouille de temps à autre. Mais on ne peut que spéculer sur ce qui lui passe alors par la tête pendant ces 40 minutes d'attente. Est-il saisi de doute, de vertige, alors qu'il s'apprête à exécuter un plan qu'il a minutieusement préparé? Toujours est-il qu'à 16h40, une secrétaire administrative lui demande s'il a besoin d'aide. Sans répondre un mot, Marc Lépine quitte les lieux. Il erre dans les corridors, s'arrête pour sortir la carabine qu'il a cachée dans son sac et à 17h10, il pénètre dans la salle C234 au deuxième étage. 60 étudiants en génie mécanique y suivent un cours. L'un d'entre eux s'appelle Stéphane Scheyer. En 2019, il se remémore l'arrivée de Lépine dans sa classe pour le documentaire « Ce qu'il reste du 6 décembre ».
On est tous très concentrés sur ce qu'on fait. On est vraiment dans une activité de présentation de nos projets. Nos collègues présentent, on est intéressés par ce qu'ils présentent. On est aussi en train, en parallèle, faire du multitâche à regarder nos dernières notes. Et soudainement, il y a quelqu'un qui rentre dans la classe, qui a une allure différente, qui est pas habillé comme nous on est, un look un peu plus militaire, si je me souviens bien, avec une carabine. Ça crée un silence instantané. Et il se positionne devant la classe. Et tout le monde est un peu estomaqué. On est tous à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Et moi, rapidement, en regardant Marc Lépine en avant, j'ai un instinct. Un instinct qu'il y a quelque chose de pas normal. Je sens qu'il y a un problème.
Carabine à la main, Marc Lépine s'approche d'un étudiant qui fait une présentation et crie « Tout le monde arrête tout !» Puis il tire un coup de feu au plafond. « Séparez-vous, les filles à gauche, les gars à droite » ordonne-t-il. Les étudiants sidérés restent immobiles. Beaucoup, en vérité, croient une mauvaise blague de fin de semestre et pensent que l'intrus a tiré une balle à blanc. Mais Marc Lépine répète son ordre en criant jusqu'à ce que tout le monde s'exécute. Une fois les deux groupes constitués, il demande au garçon de sortir. Il reste alors seul, avec 9 étudiantes, regroupées dans un coin de la classe. Par la suite, les survivants se repasseront la scène en boucle, les garçons en particulier. Aurait-il pu agir autrement, affronter l'assaillant, rester aux côtés des femmes plutôt que de les laisser seules? La vérité, c'est que personne n'imagine sur le moment l'horreur qui va suivre. Yvon Bouchard, l'un des deux professeurs présents dans la classe, croit lui à une prise d'otage. Et comme il le raconte bien plus tard, dans les prises d'otage, quand on sépare les femmes ou les enfants d'un côté et les hommes de l'autre, comment voulez-vous que les gens qui sont là présument que ce sont les premières qui vont se faire tuer ? Nathalie Provost, l'une des 9 étudiantes, est alors du même avis. J'avais en tête tous les mythes, les femmes et les enfants d'abord, je pensais plutôt à un guet-apens pour les gars, dira-t-elle. Restée avec ses camarades, face à l'assaillant, elle a avec lui un bref échange qu'elle raconte dans un documentaire sorti en 1991, intitulé « Au-delà du 6 décembre ».
C'était comme un peloton d'exécution. Puis il y en a qui avaient peur, puis il y en a qui n'avaient pas peur, comme moi, parce qu'on comprenait pas, parce qu'on voulait pas comprendre. Puis il a dit qu'il nous en voulait parce qu'on était des femmes, puis qu'il était antiféministe. Puis là, moi, j'ai dit que ça avait pas de bon sens qu'il soit là, qu'on n'était pas des féministes, qu'on se battait pas contre les hommes, qu'on n'en voulait pas aux hommes, qu'on faisait juste prendre notre place. J'ai tiré. Puis je pense pas que j'ai compris c'est quoi ce qui se passait. Sauf que j'ai vu des yeux s'éteindre. Puis là, j'ai compris qu'elle mourait.
Et l'horreur commence. Marc Lépine vide intégralement le chargeur de son arme sur les 9 étudiantes, soit 30 balles. 6 d'entre elles meurent sur le coup, 3 sont grièvement blessées. Ces dernières, dont Nathalie Provost, gisent écroulées au sol, faisant les mortes. L'une d'entre elles observe alors le visage de l'assassin. Au journal de la presse, elle témoignera. Lépine avait le sourire aux lèvres. Il semblait très fier de lui. On aurait dit qu'il était dans un rêve et que tout se déroulait comme prévu. Il est sorti de la classe sans nous regarder. Il pensait sans doute à ses prochaines victimes. Et effectivement, Marc Lépine poursuit son parcours meurtrier dans le reste de l'école. Il se dirige vers la salle de reprographie où il fait plusieurs blessés, 2 filles et un garçon. « Merde, j'ai plus de balles !» l'entend-on marmonner. Alors il prend le temps de recharger sa carabine. Puis se dirige vers les services financiers de l'école où il croise le chemin de Maryse Laganière, une employée de l'établissement. Alors qu'elle tente de se barricader, il l'atteint à travers la vitre de la porte. La blessure est fatale. Il est 17h20. Lépine descend à la cafétéria, vaste salle où se trouve une centaine de personnes. Là, il tue une étudiante qui se trouve près des cuisines. Et un immense mouvement de panique se déclenche. Les gens se sont mis à courir, comme on voit dans les films, des fourmis sortant de la fourmilière, raconte plus tard un rescapé. Les étudiants fuient en t-shirt dans la neige, dévalant les escaliers qui relient l'école au reste de la ville. Les garçons, comme les filles, craignent pour leur vie. Personne n'imaginant que seules les secondes sont visées par le tueur. Froid, méthodique, Marc Lépine débusque 2 étudiantes cachées au fond de la cafétéria et s'assassine tout aussi froidement que les autres. Et le cauchemar n'est pas terminé. Reste une dernière étape à son périple meurtrier. Il se rend alors au 3e étage et pénètre dans la salle B311 où un cours se déroule tranquillement, sans que personne n'ait été averti de la menace. Geneviève Caudin, présente dans la salle, témoigne de la scène le soir même à la télé québécoise depuis son lit d'hôpital.
Ben, j'étais en cours, j'avais un cours à l'école, puis on a entendu des coups de feu puis tout le monde criait, mais on pensait que c'était une joke, c'était une blague, parce qu'il arrive souvent des choses comiques à l'école. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est arrivé dans notre local, puis il y avait 3 étudiants à l'avant qui faisaient un oral aujourd'hui. Puis le gars, il avait une carabine, puis il nous a dit que c'était vrai, que c'était pas une joke. Là, tout le monde s'est lancé en dessous des bureaux, et s'est couché là. Puis il a tiré une couple de fois. J'ai une amie, là, je me souviens là, qu'elle était à côté de moi, puis elle gémissait. Là. Puis quand je suis repartie, je me souviens qu'elle était dans une flaque de sang. Je sais même pas si elle est vivante ou quoi. Là.
Marc Lépine tire sur l'une des étudiantes en plein exposé, Maryse Leclerc. Puis il blesse mortellement 2 jeunes femmes qui tentent de s'enfuir. Alors que Maryse Leclerc agonise sur l'estrade, appelant à l'aide, il se dirige vers elle et l'achève de 3 coups de poignard. Baignant dans le sang, entouré de cadavres, Lépine a encore une dernière chose à faire. Il pose son couteau ensanglanté sur le bureau, ainsi qu'une 60aine de balles qu'il n'utilisera pas. Puis il s'agenouille, pointant la carabine vers sa tête. On l'entend murmurer « Oh shit !» et il tire. Il est 17h27, fin du massacre. En seulement 20 minutes, Marc Lépine a emporté avec lui la vie de 14 étudiantes, faisant également 14 blessés. La rapidité de la tuerie a pris la police de court. Elle arrive sur les lieux à 17h30, soit 3 minutes après la fin du drame. D'ailleurs, les policiers n'osent pas entrer immédiatement, attendant des renforts. La panique et la confusion règnent. Le nombre considérable de détonations fait courir la rumeur qu'il n'y a pas un, mais plusieurs assaillants. Ce n'est que vers 6h moins le quart que la police pénètre enfin dans l'école. Et tous se souviennent de scènes de guerre, des impacts de balles partout, des portes défoncées. « J'avais l'impression de voir Beyrouth à la télé après une explosion », déclare l'un des policiers. Les premiers journalistes arrivent sur place pour couvrir l'événement. En quête de réponse, ils se pressent autour du policier Pierre Leclerc, en charge de relations avec les médias. Ce dernier répond tant bien que mal à leurs questions, puis pénètre dans le bâtiment, assurant devant les caméras de télé qu'il va revenir au plus vite communiquer un bilan complet. Mais il ne reviendra pas. Pierre Leclerc est le père de Maryse, la dernière victime de Marc Lépine, poignardée en plein cœur. Dans le documentaire « Ce qu'il reste du 6 décembre », il raconte comment il a découvert le corps de sa fille.
Et puis au troisième étage, je m'en viens dans le corridor et je tourne à droite parce que c'est la seule salle où il y a de la lumière. Là, en tournant le coin de la pièce, du corridor, j'ai vu ma fille à terre tout de suite. Je l'ai reconnue instantanément. Je l'ai regardée 5 secondes. Sur le mur derrière moi, il y avait le cerveau des autres filles qui étaient étampées dans le mur. C'était une boucherie épouvantable, tu sais. Et Lépine est sur elle. Tu sais, Marc Lépine est un peu couché comme ça sur Maryse, ma fille.
À la télévision, on parle d'abord d'une simple fusillade, d'un tireur fou qui a ouvert le feu sur des passants, faisant plusieurs blessés. Puis, au fil des heures, le bilan s'aggrave, passant à 14 morts. Dans les salles de rédaction, les journalistes prennent conscience qu'ils sont face à un événement d'importance nationale, voire mondiale. Les tueries de masse dans les écoles sont à l'époque encore rares. Et nous sommes 10 ans avant le massacre de Columbine aux États-Unis. Dans les médias, le choc est tel ce soir-là qu'une information majeure passe au second plan, le sexe des victimes. Il faut attendre 21h. Après 3 heures de direct, pour qu'on annonce officiellement que les 14 victimes sont toutes des femmes. Tout au long de la soirée, les nombreux étudiants témoins de la tuerie avaient pourtant été catégoriques. Le tueur les a visés spécifiquement. Mais la plupart des journalistes présents refusent dans un premier temps d'y croire, trouvant l'information trop invraisemblable, trop choquante pour être relayée. Louis Courville, directeur de l'école polytechnique, se montre également incrédule lorsqu'il est interrogé en fin de soirée à la télé.
Monsieur Courville, comment expliquer que les victimes aient été toutes des femmes?
Eh bien, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. L'individu, apparemment, d'après les témoignages que j'ai eus, n'a rien demandé. Il n'a pas exigé rien de spécial. Il a séparé les garçons des filles puis a tué les filles. J'en sais rien, je suis complètement atterré.
Dans les réactions immédiates au drame, la gêne sur le profil des victimes est palpable. Le soir même, Claude Ryan, alors ministre de l'Éducation du Québec, fait part de ses condoléances les plus profondes aux familles de ses étudiants fauchés dans la fleur de l'âge. Vous avez bien entendu, étudiants, pas étudiantes. Le lendemain, à l'Assemblée nationale, le premier ministre québécois Robert Bourassa et les principaux responsables de l'opposition rendent hommage aux victimes et aux jeunes assassinés. Mais ils évitent les mots « fab » ou « fille ». Malgré la déclaration choc de Marc Lépine dans la première classe rendue publique par la police, les intentions du tueur sont jugées floues. Au lendemain du drame, l'éditorial du journal québécois Le Soleil est titré « Une tuerie inexpliquée. Je hais les féministes » a lancé le tueur fou avant de tuer et de blesser les femmes. Mais cela ne prouve rien, écrit le journaliste. Le 7 décembre, les noms des victimes ainsi que leur âge sont annoncés officiellement en conférence de presse par Jean Grenier, coroner en chef du Québec.
Les victimes sont donc Geneviève Bergeron, 21 ans, Hélène Colgan, 23 ans, Nathalie Croteau, 23 ans, Barbara Degas, 22 ans, Anne-Marie Edward, 21 ans, Maude Avirnik, 29 ans, Barbara Maria Klusnik, 31 ans, Maryse Laganière, 25 ans, Maryse Leclerc, 23 ans, Anne-Marie Lemay, 27 ans, Sonia Pelletier, 28 ans, Michel Richard, 21 ans, Annie Saint-Arnaud, 23 ans, et Annie Turcotte, 21 ans.
Difficile alors de nier l'évidence, le Canada vient d'assister à un meurtre de masse de femmes. Le premier féminicide de masse contemporain revendiqué, comme l'analyse l'historienne Christelle Tarot. Trois jours de deuil national sont décrétés. Le 11 décembre, les funérailles de 9 des 14 étudiantes ont lieu dans la cathédrale de Montréal. Elles rassemblent les plus hauts dignitaires du pays et sont retransmises en direct à la télé. Mais la concorde nationale est rapidement brisée par la polémique. Quelle interprétation donner en effet à ce qui vient de se produire? A-t-on affaire à un tireur fou, un déséquilibré dont il serait vain d'interpréter les motifs? Ou bien à un idéologue antiféministe, à la manifestation monstrueuse du ressentiment masculin contre les femmes? Et c'est précisément une lettre de revendication retrouvée sur le corps du tueur qui va se retrouver au cœur des débats.
Just
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tuerie de l'École Polytechnique de Montréal.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
7 décembre 1989, la police de Montréal tient une conférence de presse au lendemain de la tuerie. Elle annonce avoir retrouvé une lettre de revendication sur le corps du tueur, mais refuse de la rendre publique, son contenu étant jugé trop sensible. L'ensemble des propos est antiféministe, résume simplement le porte-parole de la police, qui précise toutefois que cette lettre testament est accompagnée d'une liste de 19 noms. Il s'agit de femmes influentes que le tueur aurait aimé viser. Le manque de temps, car je me suis mis trop tard, a permis que ces féministes radicales survivent, écrit Lépine. Le nom de ces 19 femmes fuit le lendemain dans les médias. Parmi ces noms, il y a celui de Francine Pelletier, chroniqueuse au quotidien national La Presse, fondatrice du magazine féministe La Vie en Rose. En 2019, à Radio-Canada, elle se remémore le moment où elle a appris que le tueur l'avait dans sa ligne de mire.
24 ou 48 heures après, ça aussi je m'en souviendrai longtemps, c'est Alain Dubuc, qui est mon patron à La Presse, comme rédacteur en chef, qui m'appelle à la maison le matin, puis il m'a dit « Est-ce que tu as lu le journal ce matin? » Je dis « Pas encore », mais il dit « Assieds-toi parce que ton nom est sur la liste. » À ce moment-là, je pense qu'on savait qu'il y avait une liste. Oui. Les policiers en avaient parlé, mais sans publier. Donc, j'étais vraiment en furie parce que non seulement les policiers refusaient de publier la lettre qui nous aurait éclairé un peu sur les motivations du tueur, mais il y a quelqu'un qui a coulé ce qu'il fallait justement pas couler, le nom des femmes, des autres femmes que Lépine avait soi-disant en tête.
Francine Pelletier cherche à tout prix à mettre la main sur la lettre de Marc Lépine que la police refuse de lui communiquer. Elle se souvient de sa colère à l'époque. N'avais-je pas le droit, moi, autant que la police doit savoir ce qui s'était passé dans la tête de Marc Lépine? N'avait-il pas tué 14 femmes plus ou moins à ma place? Alors elle porte l'affaire devant une commission d'accès à l'information. Et à nouveau, elle essuie un refus. Ma croisade est foutue, pense-t-elle alors. Personne à part la police ne verra jamais la lettre. Mais un an plus tard, rebondissement, une photocopie du document est envoyée à son domicile par la poste de manière anonyme. Comme dans un roman d'espionnage, se souvient-elle, stupéfaite. L'expéditeur est probablement un policier sensible à sa cause. Le lendemain, La Presse, le quotidien où elle travaille, publie cette lettre de Marc Lépine à la Une. En voici un extrait.
Excusez les fautes, j'avais 15 minutes pour l'écrire. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, le 6 décembre 1989, ce n'est pas pour des raisons économiques, car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers, refusant même de l'emploi, mais bien pour des raisons politiques, car j'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie, et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. Même si l'épithète tireur fou va m'être attribuée dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel, que seule la venue de la faucheuse a amené à poser des gestes extrémistes. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes tout en s'accaparant de ceux des hommes. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Un vrai casus belli. Désolé pour cette trop compendieuse lettre.
L'apparition de cette lettre, terrifiante de froideur, mêlant faute d'orthographe et langage châtié, vient contrecarrer le récit qui s'est imposé depuis un an dans l'espace public sur les motivations du tueur, justement. Pendant un an, psychologue, éditorialiste, disserte sur la personnalité de Marc Lépine. On apprend qu'il a été traumatisé par un père violent et absent, qu'il n'a jamais eu de petit ami, qu'il a entretenu des rapports compliqués avec sa mère, comme avec sa sœur, bref. On fait le portrait d'un garçon solitaire et instable, d'un cas isolé, d'un fou, que personne n'a pu empêcher de commettre l'irréparable. Or, ce que dévoile la lettre est tout à fait différent. On y découvre en vérité un idéologue froid, haineux, un érudit rationnel, selon les mots mêmes de Lépine. Comme l'analyse Francine Pelletier à Radio-Canada, ce dernier manifeste un rejet profond de la place croissante prise par les femmes dans la société québécoise. Et sa volonté d'arrêter la révolution féministe s'est mise en marche.
Ce qui rend la tragédie encore plus tragique, c'est pas simplement que des femmes, des jeunes femmes qui avaient la vie devant elles sont mortes, c'est qu'il a tué le futur, il a tué le progrès, Marc Lépine. Il a tué où on s'en allait. Il a voulu arrêter ce mouvement qui est que les femmes se tiennent debout. Et ça, pour moi, c'était absolument, fallait le mettre sur la place publique. Que c'était d'abord beaucoup plus compliqué qu'on pensait, et que c'était ça, il y avait une dent contre ça.
Au moment où Marc Lépine commet son crime de masse, les droits des femmes ont connu des avancées majeures au Québec. Pendant les années 60, une période de l'histoire québécoise appelée la Révolution tranquille, une série de conservatismes s'effondre. Les femmes accèdent aux études supérieures, à la contraception, au divorce. À la fin de cette décennie, l'avortement n'est plus criminalisé et en 1989, l'année de la tuerie, il est officiellement légalisé. En quelques décennies, la société québécoise s'affranchit de la tutelle de l'Église catholique et se mue en une société ouverte et progressiste. Si la route à parcourir vers l'égalité réelle des droits est encore longue, la plupart des féministes pensent alors que le combat est gagné et que la société québécoise, dans son ensemble, soutient ces avancées. Aussi, quand Marc Lépine frappe l'école polytechnique, le choc est profond. Je me rappelle avoir pensé « Qu'est-ce qu'on a été naïve ?» résume Francine Pelletier. Dans le documentaire « Ce qu'il reste du 6 décembre », la syndicaliste féministe Monique Simard, également citée par Lépine dans sa fameuse liste, analyse ce que l'attentat de Polytechnique a mis en lumière.
On a réalisé qu'il y avait des poches de la société qui nourrissaient un ressentiment très, très profond à l'égard des femmes. Qu'au fond, étaient restées dans un silence, mais ce silence-là n'était pas nécessairement un accord. Les anti-féministes, parce qu'il y en a, il y en avait à l'époque, et il y en a encore, ça faisait leur affaire de se servir, je dirais, de cette tragédie pour dire, elles ont été trop loin, il faudrait un peu se calmer. Et là, tout d'un coup, étaient interviewées un tas de femmes qui disaient, non, moi, je suis pas féministe. Oui, c'est très bien, mais là, c'est peut-être plus nécessaire. Là, ils en ont eu assez, ils en ont plus besoin.
Backlash, c'est ainsi que les féministes qualifient le retour de bâton conservateur après chaque avancée du droit des femmes. Dans le sillage de la tuerie de Polytechnique, le backlash est particulièrement violent. Le lendemain de l'attentat, en effet, certains hommes participent à des émissions interactives de radio pour faire part de leur compréhension pour l'auteur. La journaliste Francine Pelletier reçoit ainsi l'appel d'un homme qui affirme s'identifier auteur. « Si vous voulez interviewer Marc Lépine après sa mort, interviewez-moi », lui dit-il. Et au téléphone, il détaille à la journaliste son ressentiment contre son ex-petite amie et contre le féminisme en général. « Il se vivait comme émasculé », résume-t-elle. En 1990, un essayiste influent, Roch Côté, publie un brûlot antiféministe intitulé « Manifeste d'un salaud ». Il y affirme que les idéologues du féminisme ont bel et bien récupéré la tuerie de Polytechnique à leur profit, fustigeant une opération qui relève de la croisade et de l'exorcisme contre les hommes. Au fil des années, des groupes masculinistes se structurent au Québec. En 2009, 20 ans après la tuerie, le documentariste Patrick Jean, dans son film « La domination masculine », donne la parole à plusieurs d'entre eux.
Et je dis le Québec, c'est l'opposé du Taliban. Le Taliban, c'était l'oppression contre les femmes. Le Québec, c'est l'oppression contre les hommes. C'est la vérité.
C'est pas exclu qu'un jour, un jour ou l'autre, il y a un retour de bâton, un retour de flamme sur ce qui se passe au Québec. On a eu l'exemple de Lépine, qui a été une grosse erreur sur le plan politique. Mais je ne dis pas qu'on aura un jour ou l'autre la Saint-Barthélemy ici, entre les hommes et les femmes. Mais je dois dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont montés contre les féministes, contre les femmes.
Loin de sombrer dans l'oubli, Marc Lépine devient une référence pour les masculinistes les plus extrêmes. En 2009, un blogueur canadien le compare à un héros, le glorifiant dans des montages photos l'arme à la main. Il fera de la prison pour incitation à la haine contre les femmes. Marc Lépine lui apparaît aujourd'hui comme le précurseur d'un mouvement qui émerge sur Internet dans les années 2010, le mouvement Incel. Ce terme anglo-saxon, contraction de célibataire involontaire, désigne des communautés en ligne de jeunes hommes blâmant les femmes pour leur absence de vie sentimentale et sexuelle. Certains se contentent de faire étal sur des forums de leurs ressentiments misogynes. Mais d'autres passent à l'action violente. Ainsi, en 2018, à Toronto, toujours au Canada, un jeune homme de 25 ans, Alex Milassian, fonce sur la foule au volant d'une voiture, tuant 10 personnes, principalement des femmes. Peu avant l'attaque, il publie sur sa page Facebook un message annonçant le début de la révolution incel. En 2020, à Toronto toujours, un adolescent de 17 ans assassine une femme dans un salon de massage. On retrouve dans son manteau une note où il indique que la rébellion des incels a commencé. Il sera condamné pour terrorisme. Car comme l'explique le journaliste Mathis Buchensturm sur France Culture en 2022, avec les incels, c'est bien une nouvelle menace terroriste que l'on voit émerger.
Les incels version 2022 sont plus dangereux et plus radicaux qu'ils ne l'ont jamais été. Et sur le site incel le plus en vue, où seuls les hommes qui se déclarent hétérosexuels ont le droit de poster, eh bien le CCDH a analysé plus d'un million de messages montrant une augmentation de l'apologie du viol, des tueries de masse et de la violence. Les services secrets américains avaient déjà prévenu en mars dernier à travers un rapport avertissant que la violence anti-femme constitue une menace terroriste croissante.
Au Québec, si la menace masculiniste ne disparaît pas, la mémoire conflictuelle de la tuerie de l'École polytechnique de Montréal s'apaise au fil du temps. Son caractère antiféministe est progressivement reconnu. En 1991, le Canada décide de faire du 6 décembre, date anniversaire de la tuerie, la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En 2009, 20 ans après les faits, le film du réalisateur Denis Villeneuve, Polytechnique, est un moment important pour la mémoire collective. Reconstitution minutieuse du jour de la tragédie, le film est décrit par plusieurs survivantes comme très fidèles à leurs souvenirs et rendant justice aux victimes. Signe de l'évolution des mentalités, en 2019, à l'occasion du 30e anniversaire, la municipalité de Montréal décide de modifier la plaque commémorative de la tuerie. La première, rédigée en 1999, parlait seulement de la tragédie survenue à l'École polytechnique. Sur la nouvelle, on lit désormais que 14 femmes ont été assassinées lors d'un attentat anti-féministe. Et c'est désormais l'expression consacrée pour parler du 6 décembre 1989.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la tuerie de l'École polytechnique de Montréal. Notre invitée, Mélissa Blais. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Vous êtes notamment l'autrice du livre « J'ai les féministes ». Alors, j'ai dit tout à l'heure « Je et les féministes » parce que c'est écrit G-J-apostrophe, plus loin H-A-I-S, mais évidemment à l'oral ça passe pas. Donc c'est « J'ai les féministes », le 6 décembre 1989, et c'est suite aux éditions Remue-Ménage. On peut également citer l'ouvrage collectif « Antif ». Féminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui, aux éditions Presse Universitaire de France que vous avez co-dirigé. Alors vous êtes à Montréal en duplex depuis Radio-Canada, merci, et vous avez beaucoup travaillé sur la tuerie de Polytechnique et ses conséquences sur la société québécoise. Je note que vous êtes née en 1978, vous étiez donc une toute jeune adolescente au moment des faits. Est-ce que vous avez été marquée à l'époque par cet événement tragique et comment avez-vous été marquée?
En fait, j'ai conservé aucun souvenir de l'attentat du 6 décembre. Là, je crois que c'est parce que ma mère voulait me protéger. Et c'est au moment de mes études universitaires que j'ai pris connaissance de cet événement marquant au Québec. Et j'ai décidé de creuser la question de la place du féminisme. Hein. Quelle place laissons-nous aux féministes dans l'interprétation de l'attentat du 6 décembre et dans la création, la formation de la mémoire collective qui va se faire assez rapidement dès le lendemain. Les discours, en fait, qui... les appels au silence plutôt qui cherchent à taire et à taire donc l'événement ne parviendront pas à s'imposer et très rapidement, comme je le disais, une mémoire collective va se mettre en place. Et là, on ne remet pas en question les quelques minutes, les 20 quelques minutes de l'attentat, là, mais on cherche plutôt, en fait, à débattre du sens à donner à l'événement. Mmh. On interprète le sens ici et c'est une mémoire en conflit, une mémoire en bataille, qui en fait va laisser la place à, au départ, un discours sur la psychologisation du tueur. Hein, le documentaire, le reportage le disait bien. On produit un portrait en fait du tueur comme un être instable, solitaire. Alors que mes recherches démontrent que c'est pas tout à fait le cas. Il était capable de travailler avec des jeunes femmes au cégep du Vieux-Montréal où il étudiait. Il avait des bonnes notes à l'école. Sa voisine disait même de lui qu'il était en fait charmant. Au moment où elle a appris qu'il avait eu cet attentat, un journaliste est allé l'interroger. Et puis elle pensait que c'était le colocataire du tueur, en fait, dont il était question. Elle le décrivait comme un être misogyne, alors que justement, le tueur était plutôt gentil avec elle. Donc, ici, on n'a aucune trace d'un être instable. Et la lettre de motivation, en fait, la lettre qu'il a écrite pour expliquer son geste le dit clairement, c'est un geste politique et c'est une motivation anti-féministe.
Alors, vous l'avez décelé parce que vous êtes une personne éclairée, vous travaillez justement sur ce thème du féminisme, mais pour la société québécoise, franchement, quand c'est arrivé, est-ce qu'on tenait ce discours ou est-ce que le discours était un discours de sidération, d'indignation devant l'horreur, qu'elle soit anti-féministe ou pas?
Bon, évidemment, c'était un peu difficile au Québec de voir en fait la fracture. Hein. L'attentat du 6 décembre venait rappeler que la société québécoise est encore marquée par de la misogynie, que l'attentat en fait venait signifier que l'égalité entre les femmes et les hommes n'était pas atteinte. Et pour le Québec, eh bien, c'était en fait gros à reconnaître cette persistance des inégalités. Et plus c'est près de nous, plus c'est difficile, en fait, de voir les clivages sociaux. Et c'est toujours plus simple et facile, d'un point de vue journalistique, de voir ces clivages lorsqu'ils sont à l'extérieur, dans un autre pays, surtout dans les pays qu'on considère non démocratiques. Hein. Mmh. Donc, plus le temps passe et plus il y a une certaine forme de reconnaissance. Mais là, La reconnaissance ne se fait pas magiquement. C'est grâce aux commémorations féministes. Année après année, elles gardent le fort et elles commémorent à toutes les fois, de sorte qu'elles vont justement faire usage de cette mémoire collective comme d'une mémoire exemplaire. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire exemplaire? C'est une mémoire qui cherche à agir dans le ici et maintenant pour prévenir ce type de drame, ce type d'attentat. Donc, elles vont militer contre les violences faites aux femmes en insistant ici que le tueur est un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, qu'il faut s'y attaquer. Mais 10 ans après, on reconnaît du bout des lèvres, en fait, que le tueur était peut-être, oui, certes, misogyne, mais on ajoute du même souffle en 99 que, bon, la misogynie est chose du passé, que le Québec va bien. Donc, voyez, cette distance dans le temps permet une certaine forme de reconnaissance, mais toujours en marquant, en fait, le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, pour maintenir ce consensus social, éviter de travailler autour des clivages sociaux. Le tueur était le dernier des dinosaures en 1999.
Et alors, vous êtes plongé dans les archives de la presse au moment des faits, puis durant les différentes commémorations de la tuerie. Qu'est-ce qui ressort de cette étude, de ce qui était écrit dans la presse? Qu'est-ce que vous en avez conclu?
Ben, d'abord, justement, au sortir de la tuerie, hein, je vous parlais de la mémoire collective, c'est fascinant de voir que dans le ici et maintenant, un ensemble d'acteurs, que ce soit justement des militants de féminisme, mais aussi des chroniqueurs, des journalistes, des psychologues, mais tout le monde s'en mêle. Et dans le moment présent, on cherche à produire une mémoire collective. Et ça, c'est quand même pas rien, surtout en 1999 où on n'avait pas justement Internet et on était moins dans la spontanéité. Et donc, on produit cette mémoire. Et là, On cherche évidemment à s'en prendre aux féministes assez rapidement, de façon subtile parfois, en disant que les féministes exagèrent, qu'elles sont allées trop loin, parce que justement il faut pas chercher à interpréter ailleurs que dans la psychologie du tueur. Et sinon, on va être face aussi à une déferlante. Cet événement va ouvrir la voie à une déferlante antiféministe qui est parfois beaucoup plus virulente.
Oui.
Et j'ai pu justement documenter ce que j'ai appelé un procédé d'héroïsation du tueur. Et ça, c'est avant même là, la création des médias sociaux. On est ici face à des antiféministes très virulents qui vont traiter le tueur comme un héros.
France Inter. Affaires sensibles.
Aujourd'hui, la tuerie de Montréal. Mélissa Blais, je rappelle que vous êtes professeure de sociologie au département des sciences sociales de l'Université du Québec. Est-ce que on peut parler, parce qu'on l'a fait dans le récit, d'un attentat terroriste? Parce qu'après tout, il y a différentes formes de terreur.
Bien sûr, je reprends ici certaines caractéristiques de l'attentat terroriste là, d'un point de vue sociologique et non pas légal. C'est-à-dire que le tueur cherche à faire peur en ciblant. C'est-à-dire, il y a toujours en fait des cibles ultimes et des cibles directes. Les cibles directes ne sont pas nécessairement celles qui sont visées, mais elles cherchent à attirer l'attention et justement attirer l'attention sur les cibles ultimes. Dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui s'est passé. Le tueur de Polytechnique s'en est pris à un symbole du féminisme, hein, ces femmes qui, en fait, et perçaient dans un métier non traditionnel, le métier d'ingénieur. Elles étaient présentes à l'école polytechnique. Et il s'en est pris à elles parce qu'il voulait ultimement attaquer le féminisme. C'est ce qu'il dit, qu'il a répété verbalement lors de l'attentat, mais aussi dans sa lettre de suicide.
Bien sûr.
Donc, c'est en ce sens, en fait, qu'il produit de la peur. Il a produit de la peur à l'intérieur du mouvement féministe. J'ai reçu plus d'un témoignage de femmes qui verrouillaient leurs portes, qui me témoignaient avoir justement ressenti de la culpabilité vis-à-vis des plus jeunes femmes, se disant qu'elles étaient peut-être responsables. En fait, elles adoptaient un discours qui ressemble au discours de femmes victimes de violences conjugales, comme quoi elles se sentaient, justement, responsables, à tort, bien évidemment. Mais c'est ce que produit un attentat terroriste.
Alors, les 19 femmes aussi, cette liste de 19 femmes considérées comme féministes et femmes influentes par le tueur et qui l'auraient voulu tuer, est-ce que pour vous, cette liste, c'est aussi la clé du crime, la clé de l'explication?
Tout à fait. Et je rappellerai également que Internet n'existait pas à ce moment. Il a dû faire de la recherche. Donc, il a travaillé longtemps là pour arriver à trouver la première femme qui a gagné un concours de l'ordre des comptables agréés, la première femme pompière, la première femme policière. En fait, il a travaillé très fort pour arriver à dresser cette liste de 19 noms. 19 noms de femmes qui, encore une fois, n'étaient pas féministes, mais qui... pas toutes, en fait, mais qui symbolisaient parfois, justement, des avancées du mouvement féministe parce que il s'agit de femmes qui travaillaient dans une profession traditionnellement jugée masculine. Sinon, on avait des féministes comme Francine Pelletier, et on l'a entendu dans votre reportage. Mais donc, cette liste, oui, venait confirmer, en fait, les intentions du tueur. Et on retrouve aussi chez les incels aujourd'hui toutes sortes, en fait, de commentaires autour des attentats ou des tueries de masse de la part d'incels, où ils vont se critiquer entre eux en disant non, il faut arriver à trouver les bonnes cibles, hein. Pas les cibles directes, mais les cibles ultimes, en fait, celles qui nous dérangent le plus, c'est-à-dire les féministes. Donc, ils cherchent à s'en prendre directement, soit à des professeurs en études de genre. C'est le cas en juin dernier, ça va faire à peu près un an maintenant. En juin dernier, il y a une professeure à l'Université de Waterloo qui a été attaquée au couteau par un étudiant qui n'était pas inscrit à son cours, mais qui est entrée dans sa classe en disant quel est ce cours, et puis elle a confirmé que c'est un cours en philosophie du genre, et puis il s'est attaqué à elle. Donc, les incels par la suite ont estimé qu'il s'agissait là de bonnes cibles. Enfin, il n'y avait pas de dommages collatéraux.
Et qu'est-ce qu'il lui a fait, vous dites? Il s'est attaqué à elle, il l'a agressé physiquement?
Il l'a agressé physiquement avec son couteau. Il a agressé également des personnes étudiantes qui ont cherché à s'interposer. Heureusement, personne n'est décédé. Mais vous parliez en fait du jeune homme mineur qui est entré dans un salon de massage en 2020 pour assassiner, oui, au nom des incels, une jeune femme qui, elle, est décédée, qui a été accusée de terroriste. Eh bien, ce jeune homme aussi, à l'université de Waterloo, est fait face à des accusations de terrorisme.
Comment définiriez-vous la pensée des incels? Au-delà de leurs actes, là, on vient de voir leurs actes. Quel est le tréfonds de leur pensée?
Bien, en fait, ce sont la plupart des jeunes hommes qui vont, en fait, argumenter autour d'une perspective voulant qu'ils sont génétiquement moins bien avantagés que d'autres hommes, moins favorisés que d'autres hommes dans leur capacité à séduire. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, ils en veulent aux femmes qu'ils estiment être des femmes populaires, les femmes qui sont jolies selon eux. Et c'est contre ces femmes qu'ils argumentent en fait leur ou qu'ils travaillent en fait leur discours de haine, c'est-à-dire que c'est pas l'ensemble des femmes, ce sont seulement ces femmes populaires qui devraient en fait s'intéresser à eux. Et donc, voilà, au niveau du discours, les incels vont justement dire que les féministes sont un problème parce que les féministes vont empêcher les femmes d'être des proies faciles, des choses à séduire. Et là, on a toute cette idée comme quoi, justement, nous serions programmés pour être génétiquement séduisables par les hommes. Il y aurait justement cette perspective voulant que les femmes doivent rester celles que l'on séduit. Voilà, que l'on séduit.
Et le courant masculiniste, est-ce que vous sentez qu'il prend de la vigueur et de la force au fil du temps?
Eh bien, c'est vraiment difficile à dire, si ce n'est que oui, effectivement, Internet et les médias sociaux là, qui forment un peu une chambre d'écho, mais aussi qui forment une sorte de porte-voix pour les discours antiféministes, nous laissent à penser qu'ils sont plus nombreux maintenant. Puis, si on regarde la manosphère canadienne, elle est identifiée comme l'une des plus importantes au monde, avec le plus de contributions. Et c'est pas étonnant tout ça, parce que ce qui est aussi le propre de tout contre-mouvement, c'est de se mettre en forme et d'émerger à partir du moment où le mouvement contre lequel il s'oppose est considéré comme populaire, fort, visible, audible. Et dans le cas de l'antiféminisme, justement, au Québec, on entend parler du féminisme. Les cours en études féministes sont populaires dans les universités. Les jeunes féministes sont bien présentes, à la fois dans la rue et sur le web, et donc on les entend. Et il suffit de les entendre pour laisser à penser qu'une partie de la population, ici les hommes, seraient en fait désavantagés par ce féminisme. Et ça suffit aussi pour les mettre en mouvement, motiver à s'organiser.
Merci infiniment Mélissa Blais. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie au département des sciences sociales à l'Université du Québec et je renvoie les auditeurs à la lecture de votre dernier livre collectif d'ailleurs, Antiféministe et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui aux éditions Presse universitaire de France. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la tuerie de Polytechnique. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.